Le Conseil de sécurité des Nations Unies a reconduit depuis mercredi dernier pour un an le mandat de la MONUSCO. Le G7, une des plateformes de l'opposition, désigne Moïse Katumbi comme son candidat à la prochaine élection présidentielle. Et tels sont les thèmes de ce soir dans Tribune de la Presse. Nous avons autour de cette table Marcel Ngoï, il est éditeur du journal La Prospérité, un quotidien qui paraît à Kinshasa. Bonsoir Marcel Ngoï.
Bonsoir Guy Mathieu.
Joachim Diana Gikoupa, éditeur du journal La Colombe, un quotidien qui paraît aussi à Kinshasa. Bonsoir Joachim Diana Gikoupa.
Bonsoir Guy Mathieu.
Et Charles Mukendi, directeur du programme des Dinanga Radio-Télévision, une chaîne privée émettant en Mbujima et au Kasaï Oriental. Bonsoir Charles Mukendi.
Bonsoir cher confrère.
Bienvenue à tous dans cette émission. Les Nations Unies reconduisent le mandat de la MONUSCO. Moïse Katumbi désigné par les G7 en tant que candidat à la prochaine présidentielle. Avant d'aborder ces débats, Alain Hirung revient sur les sujets qui ont défrayé la chronique cette semaine. On l'écoute dans cette revue de presse qu'il nous propose.
Bonsoir. Le Conseil de sécurité de l'ONU a, au terme de sa résolution 2277, adoptée mercredi 30 mars 2016 à l'unanimité, prolongé d'une année le mandat de la MONUSCO. La tempête des tropiques renseigne que cette prolongation a été décidée après de chaudes négociations entre Kinshasa et les Nations Unies sur l'avenir de la MONUSCO, plus grande mission de maintien de la paix au monde. Selon le potentiel, le Conseil a expliqué, l'ambassadeur François Delattre, représentant de la France auprès de l'ONU, a décidé de préserver les effectifs de la force car les défis auxquels doit faire face le pays restent très importants et qu'il est de la responsabilité de la communauté internationale de l'accompagner dans cette période. Pour sa part, l'avenir titre, la RDC regrette les manquements de la résolution 2277, soulignant que le Conseil de sécurité a adopté à l'unanimité une résolution qui comprend également des dispositions relatives à l'accord cadre pour la paix, la sécurité, la coopération, la situation politique et des droits de l'homme, ainsi qu'aux activités des groupes armés, dont les FDLR, l'ADF et la LRA. Les observateurs notent que le plaidoyer de Raymond Tshibanda, ministre congolais des Affaires étrangères, en faveur du retrait progressif des forces onusiennes du territoire congolais, n'a pas convaincu grand monde, souligne le phare. Parlons du G7 qui a jeté son dévolu sur Moïse Katumbi pour la prochaine élection présidentielle. La prospérité signe en manchette, présidentielle 2016, le G7 derrière Moïse Katumbi. D'après la consoeur, le conclave du G7 n'a fait que confirmer ce qui se tramait dans les salons huppiers à Kinshasa et Lubumbashi. Moïse Katumbi, actuellement en séjour à Bruxelles, va briguer la présidence de la République le moment venu. Dans la même veine, le tabloïd Forum des As renseigne que le conclave d'anciens sociétaires de l'AMP révèle son secret. Le G7 abat la carte Katumbi. Aux antipodes, le journal Avenir estime que Moïse Katumbi, candidat du G7, c'est un non-événement pour l'AMP. Sous un autre chapitre, le tabloïd Le Phare titre à la une « Affaire Sami Badibanga, Muindo et Mutombe ». La signature de Yala reconnue par 9 députés. Une nouvelle révélation fracassante dans l'affaire Yala Toulou qui vient de connaître un autre rebondissement. Toujours à ce propos, le quotidien La Prospérité nous renseigne que les députés de l'opposition, poursuivis par le PGR, l'UDPS et Alliés, dénoncent la violation des principes de séparation des pouvoirs et pour le tabloïd d'avenir, l'UDPS et Alliés défient l'autorité judiciaire. Pour clore, le billet hebdomadaire, la cité africaine nommée au parfum d'un avion de ligne nouvellement acquis par Congo Airways, c'est le bombardier Q400 appelé Kimpavita.
Merci Alain Hirung. Un petit commentaire Marcel Ngoï, je rappelle que vous êtes éditeur du journal La Prospérité, c'est un quotidien qui paraît ici à Kinshasa, vous l'avez suivi dans cette revue de presse que Alain nous a proposé. L'actualité c'est aussi la nouvelle acquisition des Congo Airways avec ses troisièmes avions de ligne d'une capacité de 74 places assises. Cet avion est baptisé Kimpavita, un bombardier 400 de fabrication canadienne. Il a été réceptionné ce jeudi à l'aéroport d'Ndjili en présence du Premier ministre et de quelques membres de son gouvernement.
Moi, j'encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts de revalorisation de nos capacités en matière de flotte aérienne. Vous savez qu'un pays qui n'a pas d'avion, ce n'est pas une bonne affaire. On n'avait plus d'avion. L'AC n'avait plus d'avion, n'a pas d'avion jusque maintenant. Mais le problème, c'est que la nouvelle compagnie est aujourd'hui... nous pensons que les trois avions ne suffisent pas pour couvrir l'ensemble du territoire. Bon, heureusement que le gouvernement reconnaît que beaucoup reste à faire. Il faudra poursuivre les efforts, continuer à faire en sorte que la flotte aérienne de cette compagnie nouvellement créée puisse quand même atteindre les capacités qui puissent faire en sorte qu'on puisse réduire le coût du billet, la souffrance de ceux qui veulent se déplacer à l'intérieur du pays sans beaucoup de peine.
Joachim Diana Gikoupa, éditeur du journal La Colombe, quotidien qui paraît à Kinshasa, ces bombardiers constituent les troisième avions de Congo Airways après les deux Airbus A320 reçus l'année dernière. N'est-ce pas un exploit? Après une année de gestion, on est en mesure d'acheter un troisième avion et l'on annonce même un quatrième avion d'ici deux semaines. N'est-ce pas un exploit de la part des Congo Airways, de la part du gouvernement et plus précisément du ministère des Transports et Voies des Communications?
Ben, en fait, la République fait un effort énorme parce qu'il était inconcevable qu'un pays aux dimensions continentales comme la RDC n'ait pas une compagnie aérienne. C'était vraiment impensable. Et on a rétabli les équilibres. Mais je refuse de croire à ceux qui pensent que, qui nous rappellent, oh, il y avait Air Zaïre et tout ça. Vous savez, moi j'étais encore étudiant quand Air Zaïre n'existait pratiquement plus. On l'avait même surnommé Air Hazard. Parce que les avions n'étaient plus suffisants, on n'arrivait plus à voler et tout ça. Et lorsqu'on voit aujourd'hui une compagnie qui essaye de respecter les horaires, moi je pense que c'est une renaissance, c'est un effort énorme qu'il faut souhaiter au lieu d'être nostalgique pour nous rappeler des vieilles histoires qui, en fait, si elles avaient été maintenues, s'il y avait eu bonne gestion, on ne serait pas obligé aujourd'hui de reprendre à zéro.
Et Shalom Kendi, directeur des programmes de Dinanga Radio-Télévision, une chaîne privée émettant à Mbujimayi au Kasaï oriental. Votre commentaire par rapport à l'arrivée de ce nouvel avion de Congo Airways?
Une bonne information pour l'ensemble de la République, je crois bien. Je voudrais que ce soit aussi une bonne nouvelle pour nous ici en Bujumbura et Kasaï Oriental, parce que un petit peu frustré depuis qu'on a eu, on a ouvert cette compagnie avec ces avions. On a commencé avec Mbujimayi, mais on a tout de suite arrêté. Et ici, on attend encore. On nous a dit que notre aéroport n'est pas en bon état. Malgré toutes les négociations, cette compagnie a persisté à ne pas desservir Mbujimayi. Nous pensons que peut-être avec cette nouvelle acquisition, en fait, on va desservir également l'aéroport de Bitenga en Mbujimayi.
Marcel Ngoï, l'actualité, c'est aussi l'éliminatoire Cannes 2017 avec cette victoire des Léopards de la RDC face au Palanca Negra d'Angola sur les scores de début à zéro.
Oui, la montée en puissance des Léopards est un signe évident de la prise de conscience collective dans les secteurs du sport. Et nous pensons que si, au-delà des efforts qui sont en train d'être menés, qu'on mette en place toute une politique d'encadrement de jeunes afin que les réussites ne soient pas hasardeuses, que ça soit toute une culture, que ça soit toute une vision permanente. Je crois que ça pourrait davantage aider ce Congo à vendre mieux son image à partir même du secteur sportif. Il faudra, quand je parle de moyens, ça veut dire que le moyen pour motiver les joueurs, de moyens pour motiver tous ceux qui encadrent le joueur, mais aussi il faut des équipements, des infrastructures, il faut le perfectionnement en termes de formation. Voilà, donc tout ça, ça demande que toute une politique se mette en place. Mais déjà, il faut féliciter l'actuel ministre des sports et tous ceux qui l'entourent, et pourquoi pas Florent Ibengue, et pourquoi pas le gouvernement qui débloque des moyens pour que ce travail se fasse.
Joachim Diana, on a l'impression que depuis un certain moment, la RDC est en train de reprendre sa place de la décennie 70 comme une des grandes nations de football en Afrique.
Oui, tout à fait. Ce qui est valable pour les Léopards l'est pour les FRDC. Car lorsque je disais aux gens qu'il ne suffit pas, lorsque le pays est dans une situation où personne n'accepte personne, et les gens ne se mettent d'accord sur rien du tout, et c'est pourquoi le discours, on a entendu le discours, nous n'avons pas une armée. Mais maintenant, plus personne ne tient ce discours-là. C'est parti. Il y a un moment, on a dit le sport, mais les Léopards, on les a même qualifiés de chats beauté, de ceci, cela. Mais pour le moment, je me suis rendu compte, à partir du match que nous avons perdu contre la Côte d'Ivoire, ici au stade du 20 mai, du stade Tata Raphaël, je me suis dit, nous avons désormais une équipe. Et les gens ont dit, mais une équipe qui a perdu, oui, l'équipe a perdu, mais avec manière. Et cette équipe-là était capable de battre la Côte d'Ivoire sur son terrain. Et ses pronostics étaient concrétisés. Donc nous avons maintenant une équipe qui peut rivaliser, qui peut même aller à la Coupe du Monde, parce qu'il y a des joueurs qui jouent, effectivement. C'est le contraire d'une certaine équipe avec Claude Leroy, qui était une équipe lourde sur le terrain maintenant. Vous avez des joueurs qui sont mobiles, qui jouent. Mais nous avons un véritable groupe, un véritable 11 national dont nous pouvons être fiers et qui peut aller loin.
Et Shalom Kendi, la montée en puissance des Léopards reflète une prise de conscience dans les secteurs des sports, comme l'a dit Marcel Ngoï.
Oui, surtout lorsqu'on fait conscience à des jeunes qui montent, comme on en voit là, surtout à partir du dernier jeune, on a vu des jeunes qui jouent au pays. Et quand on a une ossature comme celle-là, avec des jeunes gens qui montent petit à petit, je crois que ce sera une très grande équipe, une équipe qui promet beaucoup, surtout si on a une politique cohérente. Parce qu'à un certain moment, on se souvient, on ne paye pas suffisamment ces joueurs-là, malgré tout ce qu'ils font, et parfois, le malheur est que même leur encadreur, quand il est national, il est congolais comme Ibenge, parfois, on le comprend pas très bien, on chercherait à aller chercher un expatrié à qui on va offrir des millions, qui parfois ne comprend pas trop bien la mentalité, ne comprend pas très bien ce qu'il a. En tout cas, je crois que c'est bien parti pour ces jeunes.
Merci. Notre premier thème de ce soir, le Conseil de sécurité des Nations Unies a reconduit depuis mercredi dernier pour un an le mandat de la MONUSCO. D'après la résolution 2277 proposée par la France et adoptée à l'unanimité, le Conseil de sécurité exhorte le gouvernement de la RDC et toutes les parties prenantes à garantir un processus électoral libre, équitable et crédible. Les points forts de cette résolution avec Paul Matendo.
Cette résolution récente renforce le mandat de la MONUSCO autour de deux priorités. D'abord, la protection des civils dans le cadre de la lutte contre les groupes armés. Ensuite, le soutien à la tenue des élections crédibles, pacifiques et démocratiques. La résolution n'échange pas l'effectif actuel ni le nombre maximum autorisé des casques bleus qui reste fixé à plus de 21 000 soldats et policiers. Le Conseil de sécurité prend acte de la recommandation du secrétaire général Ban Ki-moon de réduire de 1 700 l'effectif militaire de la mission. Il réaffirme être prêt à réduire les effectifs quand les progrès importants auront été réalisés pour atteindre les objectifs prioritaires de la mission. Autre chose, le Conseil de sécurité a décidé de préserver les effectifs de la force car les défis auxquels doit faire face le pays restent très importants. En attendant, il exhorte Kinshasa à reprendre les opérations militaires conjointes entre les FRDC et la MONUSCO contre les FDLR.
La délégation congolaise au Conseil de sécurité prend acte de cette résolution, mais déplore la non-prise en compte des avis de la RDC. On écoute l'ambassadeur Ignace Gatamavita, représentant du pays auprès des Nations Unies.
Ma délégation prend acte de la résolution que vient d'adopter le Conseil relative au renouvellement du mandat de la MONUSCO en République démocratique du Congo. Tout en remerciant le Conseil pour cet acte, et à travers votre organe, l'Organisation des Nations Unies, mon gouvernement regrette, et ne peut s'en cacher, que la résolution ait choisi d'ignorer les points de vue pertinents de la République démocratique du Congo sur des questions essentielles qui engagent son avenir, notamment sur les élections, la lutte contre les groupes armés et la réduction de la force de la MONUSCO. Concernant les élections, mon pays tient à l'organisation des élections libres et respectueuses des standards internationaux en matière d'inclusivité, de transparence et de crédibilité. L'insistance du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale de mon pays sur l'importance que la République démocratique du Congo attache à la paix et à la stabilité ne devait pas être interprétée comme un prétexte pour mon pays à repousser les élections.
Marcel Ngoï, je rappelle que vous êtes éditeur du journal La Prospérité, un quotidien qui paraît à Kinshasa. Les Nations Unies reconduisent pour un an le mandat de la MONUSCO. Est-ce une surprise ou c'était prévisible?
C'était prévisible parce que les conditions qui prévalent dans le pays par rapport à l'escalade de la violence, au massacre, par exemple à Beni, tout ce qu'il y a, donc ça nécessite que, d'une manière ou d'une autre, que la MONUSCO continue à opérer. Mais ceci n'exonère pas le Conseil de sécurité de sa responsabilité de tenir compte du point de vue des autorités congolaises pour voir dans quelle mesure intégrer ce point de vue dans la décision qui a été prise. Mais hélas. La résolution 2277 est déjà là. Normalement, si on suit de près les choses, une résolution du Conseil de sécurité a un caractère exécutoire, un caractère contraignant, un caractère opposable à tous. Et dans le cas d'espèce, la République démocratique du Congo faisant partie de l'Assemblée générale des Nations Unies, cette résolution doit devenir comme une des préoccupations pour qu'elle puisse être appliquée. Mais je crains qu'avec des réticences qu'on lit sur le visage des autorités congolaises, plus particulièrement des IGAS, le permanent aux Nations Unies, et même la déclaration que Menda a réalisée juste en marge de la publication de cette résolution, on doute fort qu'on puisse développer, qu'on puisse assister à un double langage quant à l'applicabilité de cette résolution. Parce qu'en fait, la MONUSCO ou l'ONU, pour appliquer une résolution, c'est pas l'ONU qui viendra appliquer ça de soi. Parce que la résolution concerne le Congo. Donc la coopération des autorités congolaises est importante. Or, dans les cas d'espèce, on va assister à une sorte de langage de sourds.
Joaquin Diana, éditeur du journal La Colombe, un quotidien qui paraît à Kinshasa, une décision qui était prévisible, d'autant plus que la situation sécuritaire ne s'était pas encore améliorée en RDC, comme le dit Marcel Ngoï, mais il craint le fait que, en fait, les risques que cette résolution ne soit pas appliquée, vu, n'est-ce pas, les divergences de vues entre les Nations Unies et les gouvernements congolais au sujet du contenu de cette résolution.
Ben, en fait, cette résolution pose problème, dans ce sens que il a un arrière-fond qui nous fait penser que dans la tête de certains membres du Conseil de sécurité, la RDC est déjà un pays sous protectorat.
Pourquoi ?
Beaucoup ont cette tendance. Parce qu'en fait, lorsqu'un gouvernement souverain donne ses avis, on n'en tient pas compte. On décide ex cathedra. Ça veut dire quoi ? C'est que ce pays n'a pas une voix qui compte, alors que c'est un pays partenaire. C'est avec lui qu'on doit travailler, c'est lui qui doit appliquer la résolution. Mais lorsque ce pays estime que j'ai donné mes avis et on les a jetés à la poubelle, et vous pensez que soit le Conseil de sécurité nous dit clairement que le Congo est sous administration de l'ONU. Il le dit clairement. S'il ne le dit pas et il n'écoute pas les autorités congolaises, il y a un problème.
C'est vrai qu'il y a cet avis du gouvernement qui avait souhaité que l'on puisse réduire les forces de la MONUSCO en RDC, mais aussi il y a l'évidence sur le terrain et que la situation sécuritaire ne s'est pas améliorée. Ça a été même constaté dans cette résolution.
Guy Maté, je veux vous dire ceci. On peut y recevoir l'historique en moins de minutes. J'ai dit, lorsque en 1999, on décide d'envoyer la MONUSCO ici pour remplacer toutes les forces étrangères qui étaient ici. Ça fait combien on avait amené comme hommes ? 5 000 hommes. Pendant qu'en Sierra Leone, il y en avait 16 000. Et les hommes avaient quel mandat ? Un mandat d'observation. Un mandat d'observation qui n'est jamais parti jusqu'au lendemain de la création de la brigade d'intervention rapide. C'est la seule brigade qui peut utiliser la force. La MONUSCO est là, compte tenu de la situation, pour observer. Observer quoi ? Est-ce qu'avec un mandat d'observation, on peut... On dit même que, mais c'est parce qu'il y aura les... Lorsqu'il y a des troubles, la MONUSCO fera quoi ? On dit même que, voilà, si Joseph Kabila s'accrochait au pouvoir. Mais si Kabila s'accroche au pouvoir, la MONUSCO va faire quoi ? Va l'empêcher ? Ou bien va engager de combat avec les FARDC qui vont soutenir le président ?
Ça n'a pas été dit dans cette
résolution. Non, mais c'est dit dans tous les commentaires, dans tous les dessous. Lorsque cette résolution tient compte des élections, qu'est-ce qu'elle va faire pour, en ce qui concerne les élections ? La situation électorale, qu'est-ce que ça a à voir avec la MONUSCO ?
Merci Joaquim Diana. Charles Mukendi, directeur des programmes de Dinanga Radio-Télévision, une chaîne privée émettant en Mbujimayi au Kassai oriental. À travers cette résolution 2277, le Conseil exhorte le gouvernement de la RDC et toutes les parties prenantes à garantir un processus électoral libre, équitable et crédible. Et en réaction, il y a la majorité présidentielle qui estime que seuls les points de vue techniques de la CENI et les compromis de la classe politique congolaise comptent. Et comment vous comprenez ces deux points de vue ?
Eh bien, le gouvernement a son point de vue, c'est vrai, mais la communauté internationale tient compte de la fragilité de la situation. Maintenant là, on est en train de voir qu'en RDC, le gouvernement et l'opposition se soupçonnent mutuellement autour de ces élections. Et puis, on comprend aussi que le gouvernement tient à aller ça, on le sent, c'est, en tout cas, d'après ce que pense l'opposition, que le gouvernement va aller au-delà de 2016, donc faire sauter peut-être le verrou, ou plutôt faire un glissement. C'est ça tout le problème. Dans ce contexte-là, des soupçons mutuels, on est proche de l'implosion, peut-être, et tout le monde craint les pires. Donc, c'est tout à fait normal que cette résolution de l'ONU 2077 puisse afin garantir encore la situation, parce que nous sommes là dans un contexte de difficulté. Personne ne voudra qu'on puisse recommencer tout ce qu'on a déjà fait. On a réunifié les pays qui étaient en morceaux et personne ne voudrait voir encore une fois ces pays éclatés en morceaux, surtout pas la République démocratique du Congo. Au Burundi, c'est un petit pays, on n'a pas des frontières comme la République démocratique du Congo avec 9 autres États. Donc la situation en République démocratique du Congo, quand elle implose, elle atteint plusieurs États à la fois. Et ça devient même plus compliqué. Donc, les Nations Unies n'ont pas intérêt à voir la République démocratique du Congo imploser, étant donné tous les efforts, tous les sacrifices consentis par la communauté internationale. Bon, le gouvernement a tout lieu d'être souverainiste, penser qu'en tant que gouvernement d'un État, il devait être écouté. Mais la situation actuelle, avec les soupçons, avec tout ce qu'on voit, l'évolution actuelle de la chose, je crois que le point de vue de la communauté internationale rassure et permet peut-être de sortir de cette situation.
Martin Ngoï, vous avez évoqué le caractère contraignant, exécutoire et opposable à tous, n'est-ce pas, de cette résolution, et vous avez exprimé la crainte de voir cette résolution ne pas être appliquée comme il se doit, et compte tenu de cette méfiance entre les deux partenaires, la MONUSCO, en fait la communauté internationale et le gouvernement congolais. Et il y a même Charles Mukendi qui a parlé des soupçons mutuels. Est-ce que vous pensez que la communauté internationale est en mesure de faire appliquer cette résolution au cas où il y a une certaine résistance de la part du gouvernement congolais?
Oui, mais elle peut appliquer si elle passe à la phase de la coercition, de l'obligation.
Concrètement?
C'est-à-dire à pouvoir subjuguer la puissance publique congolaise. C'est-à-dire que dans le cas d'espèce, vous avez un gouvernement qui a exprimé un point de vue, et vous passez outre, et vous l'appliquez, donc il faut démettre ce gouvernement. L'obliger. Et donc,
or, ce n'est pas l'une des missions de la MONUSCO.
Alors, si l'objectif à terme, si l'objectif est d'avoir la paix, donc on a bien besoin de transiger, de pouvoir essayer de négocier, de pouvoir voir comment appliquer. Donc, ce qui suppose que même si la résolution est là, son applicabilité pourrait se faire avec la collaboration des autorités. D'où des discussions qui doivent se faire. Mais ce que je voudrais signaler, que cette résolution semble avoir tracé une voie du point de vue des élections. Elle fixe une échéance qui est en fait une sorte de rappel pour dire que la Constitution congolaise a situé la fin du mandat présidentiel au 19 novembre 2016, mais elle ne parle pas du 19, elle parle du mois de novembre 2016. Cette résolution insiste sur ces délais, les élections dans les délais. La résolution demande aussi à la CENI de pouvoir présenter un calendrier électoral complet, pouvant inclure la totalité du cycle électoral. Et la même résolution enjoint le gouvernement de pouvoir, avec la CENI bien sûr, revoir assez rapidement les listes électorales et tout ça, pour rendre faisable les élections dans les conditions apaisées. Or, à ce stade, la CENI a démontré noir sur blanc qu'il devient mathématiquement, techniquement, tout ça, impossible d'organiser les élections dans les délais. Ça fait déjà la première divergence à laquelle je faisais allusion tout à l'heure, qui ferait que si on veut organiser les élections au-delà du délai constitutionnel, on se retrouverait dans une impasse dont le secrétaire général de la Nations Unies a déjà parlé lors d'une des interventions, pour dire qu'il craignait l'impasse et l'escalade de la violence qui pourrait s'en suivre.
Merci. Ouais. Joaquim Diana, Marcel l'a évoqué, à travers cette résolution, les Nations Unies demandent au gouvernement congolais de réactiver le processus électoral, mais celui-ci estime qu'il y a des contraintes qui ne peuvent pas le permettre, n'est-ce pas, de réactiver ce processus électoral. Est-ce qu'on ne peut pas envisager, pour essayer de faire dissiper cette divergence des vues, envisager une rencontre entre les deux parties pour voir s'il y a possibilité d'harmoniser les points de vue?
Bon, mais écoutez, l'ONU, je l'ai dit, a des arrière-pensées il est très malheureux, malicieux, même malhonnête de sa part de ne pas le dire clairement.
L'ONU devait dire quoi?
C'est ce que je suis en train de dire. Je continue dans la réflexion. Je me souviens, l'autre fois, lorsqu'il était question de calendrier, du calendrier global, partiel, lorsque Malmalo a estimé que, avec tout ce que nous avons compris, on n'y va pas lier. L'ONU a épousé le point de vue de l'opposition qui, pour dire que toutes les élections ont un calendrier global. Monsieur Martin Kobler est passé, mais vous voyez dans vos archives, vous les trouverez. Nous voulons un calendrier global et puis on verra, puisque quand le calendrier global, là, on verra où, comment financer. Le calendrier global a été proposé. Lorsque l'opposition le refusera, l'ONU a disparu aussi. On n'a jamais vu l'ONU pour encourager l'opposition. Non, c'est vous qui aviez demandé, allez-y, parce que nous allons vous aider.
Alors, compte tenu de tout ça, vous ne pensez pas qu'il soit nécessaire d'envisager cette rencontre entre les deux parties, parce qu'il faut
nécessairement harmoniser. Quelle partie? Avec l'ONU et la République démocratique.
Les Nations Unies et le gouvernement congolais.
Le gouvernement congolais est un État souverain qui ne traite avec l'ONU que dans des cadres structurés. On n'a pas à marchander la souveraineté nationale avec l'ONU. On n'a pas à la marchander. Nous avons des textes, l'ONU a ces textes déjà au il y a des cadres où on... Mais lorsque le gouvernement congolais se met à négocier avec l'ONU parce que l'ONU veut lui imposer un calendrier électoral, veut lui imposer les élections dans un délai qui est démontré même par le petit enfant qui vous rencontre que déjà les élections de 2011 qui étaient, on a dit, chaotiques parce que organisées dans une course contre la montre, déjà. Après mars, on avait déjà le fichier électoral.
Merci. Salom Kendi, votre point de vue par rapport à cette sorte de méfiance, de divergence de vues, la solution à votre avis serait quoi? Est-ce qu'on n'envisagerait pas la rencontre entre les deux partis afin de, n'est-ce pas, de débloquer le processus électoral?
Oui, la rencontre, mais ce que l'ONU rappelle, c'est connu, c'est dans la Constitution. Rappeler un délai constitutionnel, est-ce que l'ONU est allé outre? Et d'ailleurs, le gouvernement, depuis un certain temps, a fait montre, en fait, dans sa manière de gérer la chose. Vous regardez les rapports de la CENI, qui est dite indépendante. Vous regardez, on n'a pas reçu le moyen pour pouvoir organiser tout ce qu'il fallait depuis 2012. Il y avait un budget et des budgets qui prévoyaient comment il faut faire pour arriver aux élections. On a senti qu'il n'y avait pas cette volonté-là et qu'on a vu continuer dans le schéma du type comme on n'a pas organisé les élections, comme il n'y a pas un autre nouveau président qui doit remplacer celui qui est en fonction, on ira avec celui-là jusqu'à... c'est ça les schémas qu'on est en train de préparer. Mais l'ONU vient rappeler qu'il faut tout simplement respecter la Constitution. Là-dessus, faudrait-il négocier avec l'ONU pour qu'on change les délais constitutionnels ou pour qu'on fasse quoi? Donc, pour ma part, je crois que l'ONU a rappelé des principes, les principes qui sont dans la Constitution congolaise, les délais constitutionnels, les deux mandats qui suffisent, et c'est clair, je ne pense pas, il faut tout simplement demander au gouvernement, comme solution, de respecter sa propre loi, de respecter la Constitution, et tout irait pour le mieux.
Merci. Notre deuxième thème de ce soir, le G7, une des plateformes de l'opposition, désigne Moïse Katumbi comme son candidat à la prochaine élection présidentielle. C'est une résolution du conclave de cette plateforme de l'opposition, clôturée mercredi dernier à Kinshasa. Les sept partis de cette plateforme lui demandent de présenter sa candidature. Ils lui promettent un soutien actif et leur disponibilité à déployer dès à présent toutes leurs ressources humaines, morales et matérielles pour une large mobilisation des Congolais autour de cette candidature et de la victoire de celle-ci dans un esprit démocratique, transparent et crédible. Innocent Olenga a assisté à cette cérémonie de désignation.
Considérons la forte personnalité de l'honorable Moïse Katumbi Tshakwe, homme intègre, dynamique, rassembleur et pragmatique, entièrement tourné vers l'amélioration du quotidien des Congolais.
Les éloges du modérateur envers l'ancien gouverneur du Katanga étaient loin de tarir dans cette résolution du conclave du G7. Bref, pour ces regroupements politiques, Moïse Katumbi présente le profil idéal pour assurer un tel leadership et faire aboutir son programme commun des gouvernements. Par ses choix, les anciens sociétaires de la majorité présidentielle disent vouloir doter la RDC d'un leadership démocratique, courageux, visionnaire, dynamique, exemplaire, rassembleur, fort capable de relever les défis majeurs que connaît le pays. Et pour gagner ces paris, le G7 demande à la CENI d'éviter la navigation à vue comme méthode de travail sans calendrier ni boussole. À la Cour constitutionnelle, Le G7 rappelle sa mission et lui conseille de ne pas fabriquer des artifices devant accompagner des actes programmés de violation de la Constitution. Et enfin, au président Joseph Kabila, le G7 estime qu'il n'est jamais tard pour revenir à la raison, l'erreur étant humaine. Il lui demande de renoncer clairement et solennellement à l'idée de continuer à violer la Constitution.
Merci Nossa Olenga, Joachim Diana. Je rappelle que vous êtes éditeur du journal La Colombe, quotidien qui paraît à Kinshasa. Comment vous analysez cette résolution du G7?
Bon, à la rigueur, j'éclaterai de rire, mais comment voulez-vous, puisque lorsque j'estime que c'est la liberté d'une partie, d'une plateforme, bon, de faire tout ce qu'elle fait, mais tout simplement comme analyste politique, je constate que c'est une agitation puérile. Vous vous rendez compte que le membre du G7 semble ne pas être à l'aise. Ils ont des fourmis dans les jambes, ils veulent faire quelque chose pour montrer qu'ils sont là sur le terrain, parce que quand ils parlent de la présence de la République, ça fait un mérite particulier. C'est libre. Est-ce vraiment se déclarer candidat président de la République? C'est un acte politique d'envergure qui mérite même... Moi, je pense que c'est banal. Le candidat...
Oui, mais si vous considérez comme étant un acte banal, pour d'autres personnes, c'est un acte de haute portée politique.
Mais quelle haute portée politique? Le G7, c'est un fait privé. Une association privée des individus qui s'y reconnaissent. Ces gens-là estiment que celui qui sera leur candidat président de la République, c'est Moïse Katumbi. Qu'est-ce que ça a à voir comme effet national? Ça n'a aucun effet national. Demain, ça sera, nous en aurons même 30, 40. Se déclarer candidat président de la République, vous savez, les gens sont encore à l'époque où nous étions à l'époque du Parti État. À l'époque du Parti État, comme on n'avait qu'un candidat unique, ça suffisait que les professeurs commencent à se déclarer candidat, on l'amène quelque part au candidat, on le fouette. Les gens croient que nous sommes encore dans cette époque où il est interdit d'être candidat. Mais c'est libre d'être candidat. C'est la Constitution l'autorise, ainsi de suite. Et lorsque lui se déclare candidat, il dit « Oh, demandez à Kabila de ne pas continuer à violer la Constitution. » Il ne donne même pas quelle était la violation de cette Constitution. On avait posé la question à Moïse sur une radio périphérique. On lui pose la question « Mais monsieur, vous étiez membre de l'AMP. Est-ce que vous pouvez nous dire le jour au cours d'une réunion où vous aviez décidé que nous allons changer la Constitution ?» Non. Mais alors
Il faut rappeler que l'opposition a toujours évoqué les faits, hein, certains faits, certains actes qui se posent et qui démontrent que le gouvernement n'est pas prêt, n'est-ce pas,
non, est-ce
à organiser des élections dans les délais constitutionnels.
Guimaté, est-ce que c'est au gouvernement d'organiser les élections conformément à la Constitution? Le gouvernement finance les élections.
S'il n'y a pas de financement, la CENI ne peut pas non plus travailler.
Même lorsque la communauté internationale finance, même la MONUSCO, lorsqu'elle aide, elle voit le calendrier, elle dit « Ah, vous avez prévu telle étape dans le calendrier, nous allons financer ça. » Mais maintenant, le gouvernement va donner de l'argent pour financer.
Merci, Daniel. Marcel Ngoyi, éditeur du journal La Prospérité, un quotidien qui paraît à Kinshasa. La désignation de Moïse Katumbi en tant que candidat à la prochaine élection présidentielle par les G7, c'est un acte banal, comme le dit Diana Gikupa.
Oui, je respecte les points de vue de Diana. Mais je l'invite à faire un effort de comprendre qu'en politique, il n'y a pas de hasard. Donc la politique, c'est l'art du possible. Il n'est pas interdit à un acteur politique, à une plateforme organisée comme le G7, constituée de personnalités qui ont œuvré aux côtés du président Kabila, constituée de personnes qui ont quitté des privilèges, des gens en qui la République a reconnu à un certain moment une certaine notoriété et un sens élevé de responsabilité, que ces gens quittent le président et qu'on considère que c'est un acte banal.
Ce n'est pas une première, on a eu Kamere.
Oui, et nous avons connu, si c'était simplement banal, le président Kabila n'aurait pas révoqué des personnalités membres du gouvernement, même au sommet de l'État. C'est parce qu'à un moment, le président est sorti de ses réserves pour sanctionner un certain comportement qui gêne certainement ses stratégies et sa philosophie. Ici, je voudrais en profiter pour dire tout simplement que, loin de faire la chapelle de Moïse, moi je suis en train de penser que l'opposition pouvait profiter de cette occasion de candidature qui se déclare, parce qu'il y en aura certainement une floraison, pour pouvoir resserrer ses rangs et résoudre une fois de plus cette problématique de candidat unique et de candidat commun, pour que le moment venu, que cette opposition soit une force compacte capable de faire face aux candidats de la majorité. Rassurez-vous, Guy, si vous organisez les élections aujourd'hui et que vous avez autant de candidats de l'opposition qui se déclarent, face même à un enfant que la majorité alignerait, cet enfant pourrait gagner. Parce qu'en fait, il n'est pas dit que l'alternance est un acquis d'avance pour l'opposition.
Oui, mais vous avez évoqué la candidature unique. C'est une dynamique au sein de l'opposition. Et cette dynamique, on l'avait constatée à la veille des élections de 2011. Mais on s'est rendu compte que la dynamique n'avait abouti à rien parce que, en dépit des efforts des uns des autres, les opposants sont partis à ces élections-là en ordre dispersé.
Oui, je note tout simplement qu'il y a M. Diana qui fait des incursions dans mon temps d'intervention. Ce n'est pas mauvais, c'est une bonne chose. J'ai dit tout simplement que la redéfinition de la vision de l'opposition est un gage de sa réussite par rapport aux échéances à venir. Si l'opposition ne se redéfinit pas, le jour où il y aura élection, la majorité, même si elle alignait un enfant, la majorité passerait. Parce qu'en fait, la problématique de l'alternance démocratique aux affaires n'est pas l'apanage de l'opposition. Il est possible que la majorité fasse l'alternance à l'intérieur.
Donc, M. Maurice Katumbi a raison lorsque dans sa réponse par rapport à la proposition du G7, il dit qu'il prend acte, n'est-ce pas, de cette désignation, mais il réitère son souhait de voir l'opposition se mettre d'accord autour d'une candidature unique.
Il a raison. Moi je pense que s'il a dit ainsi, je pourrais peut-être lui demander à lui, qui vient d'être désigné, et de voir d'autres collègues qui se sont déjà déclarés pour faire un rapprochement de vues. Parce qu'en fait, la difficulté de l'opposition a toujours été cette affaire de se présenter en ordre dispersé et donc ne pas être une force organisée, structurée pour faire face à la majorité. J'insiste sur le fait que cette affaire de individualité de l'opposition qui se déclare ou des personnalités qu'on désigne et qu'on présente, tout ça, donc je pense qu'il faut quand même quelque part définir un programme commun pour que cette opposition devienne forte. Sinon, elle sera toujours comme une force, des forces éparses qui ne pourront pas faire face à la force de l'opposition, de la majorité plutôt.
Merci Charles Mukendi, directeur des programmes de Dinanga Radio-Télévision, une chaîne privée mettant en Bujima et au Kasaï oriental. Le G7 affirme que ces choix se justifient notamment par le fait que Moïse Katumbi a un bilan à présenter. Et le G7 a rappelé son action à la tête de l'ex-province du Katanga, affirmant qu'il a transformé, n'est-ce pas, cette province par notamment la mobilisation des ressources.
Et tout à fait, on peut le constater sur le terrain en regardant ce qu'est devenu les Katanga sous Moïse Katumbi. Mais ce qui plaît davantage dans leur démarche, c'est que je vois des patriarches comme Charles Mwando Simba, Gabriel Kungu Akumanza au G7, je vois Lutundula, je vois d'autres personnalités, des fortes personnalités, Olivier Kamitatou et même Lundi et Pierre. Et quand vous avez des patriarches comme ça qui se réunissent en l'absence de Moïse Katumbi et qui disent qu'ils portent leur choix vers Moïse et qu'ils ont un critérium, ça il faut féliciter. Mais je ne suis pas d'accord pour qu'on dise qu'il faut absolument que, oui c'est vrai, ils peuvent faire le forcing pour avoir un candidat commun. Mais de l'autre côté de la majorité, il y a qui? Apparemment, il n'y a personne jusqu'à présent parce que le président de la République ne sera pas candidat. Et la majorité est en train de perdre du temps à vouloir empêcher l'organisation des élections. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est plus à la majorité qu'il faut et qu'il s'organise, qu'il se trouve rapidement quelqu'un qui pourrait faire face à Moïse Katumbi. Par exemple, j'ai entendu à la radio Okapi, sur cette même chaîne, qu'il y avait l'UDPS qui s'est dit qu'il avait un candidat naturel qui est Étienne Tshisekedi. Mais face à ces deux personnalités, de l'autre côté de la majorité, visiblement, à ma connaissance jusqu'à présent, il n'y a rien. Donc, je crois que cette proclamation, cet appel des G7 est un coup qui va permettre d'accélérer les actions politiques en République démocratique du Congo. Merci. Il faut que la majorité se réorganise. Au lieu de continuer à parler dialogue, qu'on puisse plutôt entrer à préparer des candidatures pour qu'on aille tout de suite et très vite aux élections. Je crois que c'est ça l'avantage de cette déclaration. Au lieu de perdre le temps à tournoyer autour d'un dialogue qui ne s'organise pas, ça fait plus de 5 mois qu'on a convoqué, le président de la République a dit l'avoir convoqué, mais finalement on n'en est pas là. Mais je crois qu'il faut passer à cette autre étape, que chaque structure spéciale, parti politique ou chaque plateforme présente son candidat et on verra ce que ça va être.
Merci,
moi, je
ne
crois pas que l'opposition peut perdre face à un candidat qui n'est pas préparé de la majorité.
Merci,
parce que si la majorité qui ne prend pas le temps de préparer son candidat, le présenter en retard, ce candidat-là n'aura pas de chance.
Joachim Viana, on ne connaît pas encore les candidats de la majorité présidentielle. Hier, M. Moubaki est passé dans nos antennes. Il a dit que ses choix du G7 reflètent les moments où la vérité doit éclater, parce qu'il faudrait que l'on sache qui est le candidat de la majorité présidentielle. Parce que jusque-là, la majorité présidentielle est restée silencieuse. Elle ne dit rien au sujet de son prochain candidat. Elle ne dit rien au sujet des élections.
Mais écoutez, je l'ai toujours dit, hein, nous avons une opposition théâtrale qui joue au théâtre. Il y a la majorité qui est confrontée aux réalités réelles. Pendant que l'opposition joue, on dit il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau. Ça, ce sont des réalités. On n'a pas besoin de jouer au théâtre comme on peut le faire au G7 ou ailleurs. Monsieur, nous sommes, même si on était à 5 mois...
Parlez des élections, c'est jouer au théâtre.
Je parle de ça. Même si on était à 5 mois seulement de la fin du mandat, qu'est-ce qu'on appelle présenter la candidature? Qu'est-ce qu'on appelle convoquer le corps électoral? C'est lorsque la CENI convoque le corps électoral que le candidat se manifeste.
À l'instar du G7, est-ce que la majorité pourrait d'ici peu présenter son futur candidat à la présidentielle?
Ça serait rigolo d'aller même d'y penser. Est-ce que la majorité a le droit de s'aligner sur le G7? Est-ce que la majorité a même exemple, s'il existe un exemple au G7 que la majorité peut suivre?
Merci.
Ça n'existe pas. La majorité attend le moment venu. Lorsqu'on va convoquer le corps électoral, la CENI va demander de déposer des candidatures. Le candidat se manifestera. Ce qu'on fait aujourd'hui, parce qu'on n'a rien à faire, on veut rester dans les médias. C'est tout.
Quel pourrait être le mérite de cette annonce, du G7?
Bon, je voulais dire tout simplement que cette annonce intervient dans un contexte où s'il faut qu'on fasse une symétrie entre le choix du G7 et l'exigence de l'ONU de la présidentielle en novembre 2016, on comprend bien que c'est peut-être au G7 d'avoir pris un peu le dessus dans les préparatifs. Et la question que vous posez me paraît importante lorsque elle revêt une dimension liée à la majorité. À la majorité, nous avons entendu à l'époque qu'il n'y a pas de dauphin, il n'y en aura pas. Et qu'à ce niveau-là, il se pose un problème de la conception même du pouvoir d'État. Donc il faudra que, de part et d'autre, au niveau de la majorité par exemple, il n'est pas évident qu'on aille maintenant le nom, Diana l'a dit, parce qu'il faut attendre, mais la majorité ne compte pas que sur ça. Il y a un problème de ce qu'on appelle le glissement, qui est le mécanisme qui est censé se mettre en place avec la saisine de la Cour constitutionnelle, mais la résolution de l'ONU vient mettre fin à ça, à l'applicabilité de 70, ou même à faire appel à l'article 75 et 65 et 76 de la Constitution. Parce qu'en fait, notre Constitution paraît maintenant comme une question relative, comme un document secondaire par rapport à la résolution de l'ONU. Et donc, il faudra qu'on développe l'intelligence nécessaire pour comprendre ce que l'ONU demande et voir dans quelle mesure appliquer ce qu'il faut appliquer dans les délais restants pour ne pas être brûlé sous le doigt.
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à Alain Ngoï qui était à la technique et à Alain Irung qui a coordonné et réalisé cette émission sous la supervision de Julien Niamouni, à la présentation Guy Maté. Merci et bon week-end sur Radio 4.